cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 13 janvier 1995.
ait conscience de l'appréhension que grâce au jugement. Alors vous voyez, c'est ça qui est très délicat, hein, parce que c'est que au niveau de l'analyse, l'appréhension est élémentaire et le jugement est parfait. Au niveau de la conscience, le jugement est premier et l'appréhension est donnée par le jugement. Je crois que c'est très très important de comprendre cette inversion. Vous voyez, il y a plusieurs comme ça, plusieurs inversions qui sont très importantes à comprendre parce que ça explique la source d'une quantité d'erreurs. Parce qu'on n'est pas assez lucide. Autre chose, appréhension et jugement. ceci est. Si vous êtes réveillé, hein, vous avez conscience, ceci est. En vous réveillant, vous prenez conscience que vous êtes dans votre lit, normalement. Et vous le quittez. Parce que c'est une opération particulière. Autrement, alors, vous avez conscience, l'appréhension, vous l'avez conscience grâce au jugement. Et le jugement a son autonomie, tandis que l'appréhension n'a jamais son autonomie. L'appréhension saisit la fluidité. Ce n'est pas le nom. Dire quelque chose que l'intelligence elle-même faisant cette composition du jugement, on n'a pas regardé le contenu. On a simplement regardé le conditionnement. Là, je m'enferme dans le conditionnement. Et je n'atteins plus le réel. C'est quelque chose de tout à fait analogue. On reste dans le conditionnement, c'est quelque chose de tout à fait analogue. Quand on regarde le conditionnement du jugement, affirmation, négation. Mon jugement est affirmatif ou négatif. Si je regarde uniquement le conditionnement, le jugement est donc au-dessus. Affirmation, ceci est. Ceci n'est pas. La négation, ceci n'est pas. Si la négation est première, vous comprenez ce qui se passe, c'est que le jugement est donc au-dessus de l'affirmation et de négation, puisque ça sort du jugement. Donc, l'intelligence dépasse le principe de non-contradiction. Je suis au-delà. Si je ne regarde que le conditionnement, c'est très juste. Le conditionnement de ma vie intellectuelle dépasse l'axiome de contradiction. Si au contraire, je ne regarde plus le conditionnement, mais ce qui détermine mon jugement, je vois que ceci n'est pas supprime tout le ceci. Et donc, je suis devant quelque chose que je ne peux pas dépasser. Objectivement. Mais c'est ça qui me semble important à saisir, c'est que toutes ces erreurs proviennent que de fait, on analyse, on ne distingue plus le diesti du pos. En grec, ça se dit de façon très simple. Le diesti, c'est l'analyse de la détermination, de la cause qui spécifie. Le pose, c'est la manière d'être. Quelle est ma manière d'être? C'est d'affirmer et de nier. Mais ce qui est important, c'est pas ma manière d'être, c'est ce que je saisis. Vous avez là la même différence entre la philosophie éthique et la psychologie. La psychologie regarde le conditionnement. La philosophie éthique regarde la finalité. Vous voyez, c'est la maladie du temps, ça. Notre grande maladie depuis Descartes, depuis Occam, et on n'en est pas sorti, c'est de faire passer avant le conditionnement de l'analyse par les causes. On ne regarde plus les causes, on ne cherche plus à connaître les causes, on regarde uniquement le conditionnement. On décrit le conditionnement. Ceci dans tous les domaines, c'est comme ça. Ça, c'est le positivisme. Il faut arriver petit à petit à comprendre cela par rapport à nous-mêmes. Oui. Puisqu'il s'agit de convertir mon intelligence au réalisme. Quand vous mettez le conditionnement en premier lieu, vous ne saisissez pas le réel, mais vous saisissez le vécu de votre intelligence. Et saisir le vécu de votre intelligence et demeurer dans la relecture. comprenez bien que l'aspect quantitatif est toujours premier. Mais je le dépasse. Si je restais dans ma saisie de la substance, je resterais dans l'immanence. La substance, mon âme, c'est ce qui est immanent à moi. Estia, la déesse qui demeure.
Sur notre métaphysique par la suite.
voyez, c'est pas étonnant que vous posiez le problème et que vous voudriez sauter au-dessus. Parce qu'on a tous une pente depuis Bergson à dépasser l'abstraction. Vite regarder la réalité et la saisir intuitivement. Mais quand vous la saisissez intuitivement, vous ne pouvez que décrire. L'intuition est l'ennemi de l'analyse. Les esprits trop intuitifs n'analysent plus. Et au bout d'un certain temps, c'est le mélange de tout. C'est l'amalgame. Je saisis, j'allais dire, la perspicacité métaphysique de mon intelligence. C'est l'induction ultime. Il n'y en a plus d'autres. Alors après, vous pouvez vous reposer un tout petit peu. Mais l'induction ultime de l'intelligence, c'est de saisir l'être en acte. Et saisir l'être en acte reste toujours quelque chose. Présente dans l'un toutes les philosophie et sont présentes dans cette induction synthétique, analogique de la découverte de l'être en acte. Si toutes les parties de la philosophie sont présentes, je peux maintenant, ayant découvert l'être en acte, distinguer de l'être en puissance. Oui. Je peux maintenant essayer de regarder comment l'être en acte se donne à moi, est présent à moi, en métaphysique. Donc je passe de l'être en acte à l'aspect de la substance. Puisque la première partie de la métaphysique, c'est la substance. Quel est l'acte substantiel en moi ? Je suis. j'ai le point de vue de la vie, philosophie du vivant, et j'ai les opérations vitales. Philosophie du vivant. Puis ensuite, philosophie de la matière ou de la nature. Le mouvement. Je suis donc en présence des cinq modalités de l'être en acte. Je sais bien, il n'y en a pas d'autres. Intéressant de voir ça, parce que ça montre que la saisie de l'être en acte, distincte de l'être en puissance, va donner une lumière sur toute la philosophie. J'ai fait cette montée, je peux m'arrêter et regarder tout le paysage avant. C'est exactement ça. Quand vous faites une ascension en montagne, vous montez, vous regardez pas trop par derrière, ça vous arrête votre élan. Vous montez, puis quand vous êtes arrivé, vous dites, ah, je regarde, on a fait tout ça. On a fait toute cette grande montée, puis je regarde. Vérité, l'opération vitale, cinq modalités. Mais, alors, en petite remarque critique, en nota bene critique, je dis, mais toutes les parties de la philosophie ne sont pas présentes. J'ai bien philosophie, éthique, mais la philosophie de l'art, et la politique, elles aussi doivent être éclairées par la philosophie de l'être en acte et en puissance. Qu'est-ce que c'est que l'acte en philosophie de l'art? Qu'est-ce que c'est que l'acte en politique? Puisque j'ai dit que toutes les parties de la philosophie philosophie de l'art. Qu'est-ce qui en philosophie de l'art est le plus acte au point d'une lettre? Facile. L'aïdos. En philosophie de l'art, l'être en acte, c'est l'aïdos.
Les autres. Or, les deux.
chose de complexe et applique l'être en puissance, la matière. Donc ce n'est pas une modalité d'être en acte. Ça, il faut bien comprendre ça. Et ça, l'intérêt de comprendre ça, c'est de voir que le néoplatonisme qui ramène la finalité à la causalité exemplaire ne peut pas atteindre la philosophie de l'être en acte. Elle demeure dans l'aïdos. Prenez le Timée de Platon, vous verrez bien. Ça illustre magnifiquement ça. Alors, en philosophie politique, pourquoi la philosophie politique n'est pas présente? En philosophie politique, quel est l'acte en philosophie politique? Qu'est-ce qui est le plus acte en philosophie politique? Est-ce que c'est le choix des citoyens électeurs? C'est un acte très important au point de vue politique. Voter. Avoir le droit de vote par rapport au président de la République. C'est quelque chose, hein. Vous avez le droit, par votre vote, d'élire quelqu'un. Prédestination. D'élire quelqu'un. De le faire sortir de la masse et de le mettre sur un char comme une statue président de la République. Faites ça, vous coopérez à ça comme électeur. Alors, est-ce que l'acte suprême de la politique, c'est le choix de l'électeur? C'est intéressant de se poser la question. Quand vous allez voter, est-ce que vous êtes un citoyen en acte? Et parfaitement en acte. Et c'est pour ça que les citoyens aiment tellement le suffrage universel, ce qui coopère. Quand c'est la royauté, ils n'élisent pas le roi. Le roi leur est imposé. Et donc vous supprimez aux citoyens un droit extraordinaire de choisir, d'être créateur du président de la République. C'est quelque chose, hein. La démocratie, la sainte démocratie. Tous les citoyens sont électeurs et donc créent le chef, le Führer. Ordinaire, ça. Alors pourquoi cet acte-là n'est pas le sommet de la vie politique et que c'est plutôt le bien commun? C'est intéressant de se poser la question, parce que je crois qu'il y a deux actes très importants au plan politique. Les citoyens qui votent. Qui essaie de faire que le bien commun se porte bien, qu'il soit un bien commun. Parce que quand vous choisissez, quand vous élisez une loi inique, vous entamez le bien commun. Et pour l'avortement, c'est très net. Et vous diminuez le bien commun parce que vous diminuez les naissances. Et vous favorisez la diminution des naissances. Or, le bien fondamental, quand même, c'est les citoyens. Quand dans un pays, le taux des naissances est inférieur au nombre des morts, c'est un pays qui régresse. C'est un pays qui retourne en puissance. Et ceci, c'est le bien commun qui est attaqué directement. C'est une manière très importante de comprendre le méfait de l'avortement. Au point de vue politique, c'est que vous mettez l'État en danger et que vous coopérez à la détresse d'un pays. Et vous ne faites plus votre droit de citoyen, puisque vous pesez tout votre poids pour le mettre en péril. C'est un argument qu'on n'use pas beaucoup aujourd'hui, mais ça n'a plus du tout le sens politique. Alors que ce serait le grand argument en éthique fondamentalement humaine. C'est un argument très fort, ça. Vous arrêtez le bien commun et vous le mettez en péril. Alors, qu'est-ce qui est plus acte ? Le choix que je fais de celui qui va gouverner. Le choix de l'électeur ou le bien commun. Je crois que c'est assez facile à comprendre. Le choix de l'électeur, vous choisissez quelqu'un qui sera celui qui fera les lois ou au moins les approuvera en dernier lieu. Et la loi ne sera loi que grâce à son approbation. Pourrait refuser la loi. Et la loi ne serait pas loi. Donc, c'est premier du côté de la structure d'un pays par les lois. Mais ce n'est pas premier du côté de la finalité. Puisque les lois sont ordonnées au bien commun. Et donc, votre choix, s'il est juste, est ordonné au bien commun. Quand vous choisissez quelqu'un pour être président de la République, vous le choisissez, si vous le choisissez bien, vous choisissez la personne qui sera le plus capable de faire que le bien commun soit le bien commun. Et que cette personne ne soit pas quelqu'un qui nuise au bien commun. Donc, c'est bien le bien commun qui est l'être en acte au plan politique. Or, le bien commun n'est pas un être en acte parfaitement. C'est pas le bien tout, c'est le bien commun. C'est le bien qui est fait par l'homme, qui est réalisé par l'homme et qui est distribué à tous et qui est donné à tous. Donc c'est un bien qui est réalisé par le citoyen. Par le fait même qu'il est réalisé par le citoyen, n'est plus transcendant. C'est un bien commun, immanent. Donc il ne dépasse pas. Donc il n'est pas être en acte d'une façon parfaite. C'est pour ça, vous voyez, c'est analogue à l'aïdos. Et ce serait intéressant de regarder la différence entre l'aïdos et le bien commun. Dans le bien commun, il y a toujours un projet. Il y a toujours quelque chose d'artistique. Il y a toujours quelque chose qui est lié à l'aïdos. C'est comme ça que le fatchéré est présent dans le point de vue politique. Je vois donc que l'être en acte, je ne peux pas le puiser dans la philosophie de l'art ni dans la politique. Donc il y a bien les cinq et pas les six.